Vous êtes donc neuroscientifique, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Et voici votre dernier ouvrage en date, Face à face avec son cerveau, paru aux éditions Odile Jacob. Alors un très bel ouvrage, ce qu'on appelle un beau livre d'ailleurs, avec de formidables images du cerveau sous toutes ses formes, si j'ose dire, sous tous ses angles. On le découpe dans tous les sens, on en apprend énormément sur le fonctionnement du cerveau, sur l'histoire aussi des connaissances qu'on a peu à peu acquises au fil des siècles sur le cerveau et son fonctionnement, précisément parce qu'on a longtemps cru, et c'est ma première question, on vous en parlait dès le début de cet ouvrage, on a longtemps cru dans l'Antiquité, je crois que c'était Aristote, qui pensait qu'en fait l'origine de notre esprit se situait dans le cœur et non pas dans le cerveau.
Oui, ça ne va pas de soi de localiser la pensée dans le cerveau. Et donc, on a un certain nombre d'expressions dans le langage courant, mettre du cœur à l'ouvrage, par exemple, qui viennent de cette idée que le cœur est responsable, en particulier, de nos émotions. En réalité, tout se passe dans le cerveau. Les médecins de l'Antiquité l'avaient quand même compris, Hippocrate en particulier. Néanmoins, ils pensaient que c'était les humeurs, les liquides dans le cerveau.
C'est un peu un radiateur, vous dites,
qui calculait. Non, plus qu'un radiateur, mais une machine hydraulique, un peu comme les machines de l'Antiquité qui ouvraient les portes des temples. Donc c'était la métaphore de l'époque. Et c'est de là que date l'idée qu'on est de bonne humeur, de mauvaise humeur, d'humeur noire, bilieux, etc. Tous ces termes viennent de cette époque. Et il a fallu du temps pour comprendre que non, ce sont des messages électriques et chimiques que s'échangent les cellules, qui sont les neurones dans notre cerveau. Donc c'est un peu cette épopée que je voulais décrire. D'une part la beauté du cerveau, mais aussi les techniques qui nous permettent de voir à toutes les échelles comment le cerveau fonctionne.
Une passion encore pour les mathématiques et la psychologie cognitive. Une découverte enfin, l'imagerie cérébrale. Avec elle, le cerveau devient un feu d'artifice. Oh, la belle verte. Oh, la belle bleue. Là où le commun des mortels ne voit qu'une masse visqueuse, vous suivez dans un dégradé de jaune le siège d'une émotion, le sillage d'une pensée, la trace d'un apprentissage.
On arrive par exemple à savoir si une personne est en train de regarder un visage ou est en train de regarder un mot. Parce que ce sont des régions du cerveau différentes qui vont s'allumer.
Vous lisez dans notre boîte crânienne comme dans un livre. Enfin, j'exagère un peu. Ici se trouve peut-être la source, l'explication et la solution de nos problèmes.
Le cerveau humain a visiblement des capacités tout à fait exceptionnelles.
Des difficultés scolaires, le cerveau. La mémoire qui flanche, le cerveau. Une émotion, le cerveau, vous dis-je. Malgré vos diplômes, vos titres et vos chairs, le grand public ne vous découvre qu'en 2018, lorsque Jean-Michel Blanquer vous nomme président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Des pédagogues s'émeuvent lorsque vous dites l'éducation est une science. Ils vous soupçonnent de privilégier la génétique aux causes intimes, sociales et familiales des difficultés scolaires.
C'est extrêmement intéressant pour nous d'essayer de comprendre à quelles étapes le cerveau de l'enfant dyslexique ne parvient pas à décoder un mot écrit.
Fan du cerveau, vous reconnaissez pourtant qu'il est une machine imparfaite malgré ses millions d'années d'évolution. Vous préconisez humilité, tolérance et humour pour en percer les secrets.
Qu'est-ce que c'est bon de se vider la tête, il y en a tellement, justement, on le voit à travers votre ouvrage, dans notre cerveau. Vous expliquez, Stanislas Dehaene, d'abord que, contrairement à ce qui pourrait être une idée reçue, d'ailleurs, le patrimoine génétique ne suffit pas à expliquer l'organisation du cerveau. Tout dépend, dès son plus jeune âge, dès la petite enfance, même dès que le bébé est encore dans le ventre de sa mère, de la façon dont il va activer ou pas telle ou telle zone de son cerveau.
Oui, enfin, la formation du cerveau dépend énormément des hasards de l'environnement. Et en fait, le cerveau, c'est à la fois 100% de génétique et 100% d'acquis. Hein. Les deux s'entremêlent très fortement. Les algorithmes d'apprentissage de notre cerveau sont codés génétiquement. Et effectivement, ça s'inscrit extrêmement précocement dans notre
cerveau. Un bébé sourd qui n'entend pas la voix de sa mère, par exemple, aura des lésions irréversibles.
Si, peut-être pas des lésions, mais en tout cas des anomalies dans le fonctionnement, effectivement, des circuits du langage. Il y a évidemment beaucoup de manières d'intervenir chez les enfants sourds, soit avec la langue des signes, qui est une langue à part entière, soit avec des implants cochléaires. Et on sait effectivement que si on n'intervient pas avant 20 mois, il va rester toute la vie des difficultés. Donc le langage, ça commence dès la naissance, voire avant la naissance. C'est très important de dire ça aux parents.
Nadia. Moi, il y a un point qui m'a intéressé particulièrement, c'est que vous écrivez que nos connexions cérébrales sont comme nos empreintes digitales, toutes se ressemblent, mais il n'y en a pas deux pareilles. Est-ce que j'ai bien compris, si j'ai compris, qu'on peut distinguer une personne à partir de ses connexions cérébrales, un peu comme la police va identifier une personne avec les empreintes qu'elle a pu laisser sur une surface? Est-ce que c'est aussi similaire que ça?
Oui, vous avez bien compris, tout à fait, c'est ça. Il y a à la fois un patron général, nous avons tous un cerveau d'homo sapiens, il est différent de celui des autres primates, il y a un patron commun, universalité, mais à l'intérieur de cette universalité, un peu de diversité, pas énorme, mais les plissements du cerveau sont différents d'une personne à l'autre, y compris chez des vrais jumeaux, hein. Dans le livre je montre des images de vrais jumeaux, donc ils ont le génome identique, mais voilà, leur cerveau est assez franchement différent, on n'arrive pas à savoir qui sont les jumeaux.
Alors grâce à, je crois, à des stimulations, comme on dit, cérébrales profondes, on peut déjà soigner Parkinson. Est-ce qu'on peut s'attendre à des progrès pour les maladies touchant le cerveau dans les prochaines années, et notamment on pense forcément à Alzheimer, quoi.
Alors soigner Parkinson, non, hein. C'est compenser des symptômes par le biais de stimulation profonde dans le cerveau. Donc c'est difficile de soigner des maladies qui ont une étendue de développement aussi longue. Alors Alzheimer, c'est précisément le problème. On commence à assez bien comprendre des traces de la maladie et donc détecter la maladie, mais de là à guérir, c'est une autre paire de manches. Ça commence un tout petit peu, c'est balbutiant. Mais l'imagerie contribue et contribuera beaucoup parce qu'elle nous permettra de détecter précocement les symptômes, et ce sera très important d'intervenir rapidement avant que les symptômes soient installés.
Dernier, donc, c'est un violoniste qui joue pendant que l'équipe de neurochirurgie s'active sur son cerveau. Alors ça paraît fou comme ça, alors pourquoi j'utilise du violon? C'est pas parce qu'il s'ennuie pendant l'opération du tout, non. C'est parce qu'en fait, eh bien, l'opération, pour savoir si l'opération ne va pas endommager d'autres zones cérébrales que celles concernées par sa tumeur. Alors les opérations à cerveau ouvert, vous savez, existent depuis à peu près 1997 en France. On réveille le patient après ouverture donc de la boîte crânienne, on active donc les zones qui concernent l'opération, et puis le patient réalise donc des activités, ce qui permet au neurochirurgien de suivre encore plus près l'opération qu'ils sont en train de réaliser. C'est une technique qui a fait ses preuves, hein. Un patient d'ailleurs explique dans Le Parisien qu'on a, lors de l'opération, je cite, « la sensation étrange que quelqu'un vous fouille la tête, hein, mais sans douleur ». Voilà, c'est assez rassurant.
C'est extraordinaire.
Alors, est-ce que les opérations du cerveau sont-elles aujourd'hui, je mets vraiment entre guillemets, plus faciles qu'auparavant, et est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres progrès en la matière?
Ce que vous décrivez là est quand même tout à fait exceptionnel. Hein. Mais non, les progrès vont venir surtout de l'imagerie, qui permet peut-être d'éviter ce type de situation. Parce que par imagerie, on est capable de faire des cartes extrêmement fines d'un cerveau isolé, notamment quand on monte en champ magnétique. À Neurospin, on a des machines à 7 Tesla et maintenant à 11,7 Tesla, en très haut champ magnétique, qui permet de faire des images plus précises. Alors, on peut certainement faire la carte très précise des aires du langage, des aires de la musique, des aires des mathématiques, et comprendre, c'est aussi une des choses que j'essaie d'expliquer dans le livre, que vraiment, les territoires du cerveau sont très bien délimités. Nous avons une très grande spécialisation de régions, ce qui fait qu'avec une lésion cérébrale, effectivement, vous pouvez perdre, par exemple, la capacité de lire, ce qu'on appelle une alexie, sans perdre la capacité de reconnaître les chiffres ou de reconnaître les visages. Précision du cerveau.
Précisément, dans votre ouvrage « Face à face avec son cerveau », vous expliquiez à l'instant, Stanislas Dan, qu'il y a des territoires extrêmement limités dans le cerveau. Vous expliquez notamment ce que vous appelez, ce que vous avez baptisé l'effet « oups ». Alors ça va tous nous intéresser. Nous avons tous déjà, visiblement, connu, vécu l'effet « oups ». L'effet « oups », c'est quand on commet une erreur et qu'on s'en aperçoit quasi immédiatement. Qu'est-ce qui se produit?
Voilà, au moment même où on fait l'erreur, on en prend conscience. Alors, le fait qu'on en prenne conscience, ça se traduit par une activité très intense de ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Et en électroencéphalographie, on voit une négativité, des voltages négatifs, très facile à détecter, une énorme onde qui se produit, qui essaye en fait d'arrêter, qui détecte d'abord qu'il y a une erreur qui est en train de se produire, qui essaye de l'arrêter, et ensuite la prise de conscience de l'erreur. Voilà. On a tous ces phénomènes-là.
Essayer de l'arrêter, mais c'est trop tard, de fait. Elle a déjà été commise cette erreur.
Voilà. Là, elle a déjà été commise, effectivement. D'autres fois, elle peut nous servir à se corriger. Dans le cerveau, il y a plein de messages d'erreur. Ça, c'est aussi une découverte assez récente. C'est grâce aux erreurs qu'on parvient à se corriger, finalement, que le cerveau propage des messages d'erreur pour se corriger.
Encore, et malheureusement, cancre ou bonnet d'âne. On est en 1981, dans cette archive, dans un collège de Bagneux, en banlieue parisienne. On va voir deux garçons de 12 et 14 ans être interrogés par le journal. Ils racontent comment ça se passe à l'école. Plutôt mal, on va le voir. Et c'est surtout une archive qui va raviver quelques souvenirs douloureux pour certains d'entre nous, notamment sur le plan vestimentaire, mais pas que, on regarde. J'entends dire pas la peine de continuer les maths, ça marchera pas. Et ça, c'est, je trouve, l'expression d'un fatalisme qui est assez courant en France et qui est sanctionné d'ailleurs chaque année par les différents rapports qui évaluent le système scolaire français. Comment est-ce que vous recevez, je pense par exemple au rapport PISA, qui dit qu'on est plutôt très mauvais en maths, qu'on est plutôt mal classé sur telle ou telle matière. Comment vous recevez ça?
On a donc vu effectivement dans les dernières années, avec beaucoup d'enquêtes, que l'école française a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés sur le niveau, effectivement, en maths. Mais comme on vient le voir dans ce reportage, un peu passé, mais quand même pas totalement, l'école française a beaucoup de difficultés sur le plan de la confiance en eux des élèves. Et on est vraiment en bas de l'échelle par rapport à d'autres pays de l'OCDE. C'est un grave problème parce qu'avec la confiance en soi vient l'engagement, l'envie d'apprendre. Si on perd confiance en soi, on n'a pas envie d'apprendre. Il y a des travaux américains qui montrent que l'attitude face à l'apprentissage est cruciale. Si on pense qu'on est doué ou pas doué, alors on va pas s'engager. Parce que soit je suis doué, j'ai pas besoin de faire des efforts, soit je suis pas doué et c'est fini. Alors que si on a l'attitude correcte qui consiste à penser que tout le monde peut apprendre, et c'est vrai, enfin ça se passe comme ça.
L'auto-persuasion, en quelque sorte, s'auto-persuader qu'on peut y arriver.
Mais aussi la vérité, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire tout le monde progresse quand on apprend. Eh bien, à ce moment-là, on a des meilleurs résultats.
Encourager, c'est encourager aussi le cerveau, justement, à fonctionner.
Bien sûr. Alors, il y a aussi des conditions de base à l'apprentissage. On les rappelle avec le conseil scientifique. Une bonne nutrition, un bon sommeil.
Le sommeil est très important.
Le sommeil est une phase clé de l'apprentissage, et chez les petits en particulier. Augmenter le sommeil, ils sont souvent en privation de sommeil aujourd'hui, ça peut vraiment changer les résultats scolaires.
Ah ben voilà. He's a genius, but he's a